Radio Okapi.
Il est 12h à Kinshasa, les journaux sur Radio Okapi, Pascal Massirika.
Les titres de votre journal, sommet de chef d'État de la CIRGL ce soir à Mounionyo en terre ougandaise. Les ministres de la Défense des 11 pays se concertent en ce moment pour préparer le rapport à soumettre sur la capacité des nuisances des groupes rebelles actifs dans le Kivu, dont le M23. Au Kasaï oriental, un conflit coutumier dégénère en affrontement entre deux groupes rivaux dans le groupement de Mbolukinda. Le bilan fait état de 40 maisons incendiées et plusieurs autres détruites. Rencontre de foot cet après-midi au stade Kamalondo Lubumbashi au Katanga entre le tout-puissant Mazembe et l'Espérance de Tunis. Dans les deux camps, les dirigeants se déclarent déterminés à arracher la victoire. Bonjour à tous. Un deuxième jour ce dimanche à Mounionyo, dans la capitale ougandaise, de la réunion des ministres de la Défense des 11 pays de la conférence de la région des Grands Lacs. Et pour l'occasion, le débat tourne autour du rapport de l'équipe militaire d'évaluation formée récemment des experts issus des pays membres de la CIRGL. Cette réunion prépare le quatrième sommet extraordinaire de chefs d'État qui s'ouvre ce soir à Kampala. Le point avec notre envoyé spécial à Kampala, Bernard Nyangi.
L'équipe militaire d'évaluation composée de 22 officiers militaires issus des 11 pays membres de la CIRGL, lancée sur le terrain le 22 septembre à Goma, avait la mission d'évaluer et produire un rapport sur la capacité de nuisance des principaux groupes rebelles actifs au nord et au sud Kivu en RDC, dont le M23. Ce rapport, une fois amendé, sera présenté par les ministres de défense aux chefs d'État et gouvernement des 11 pays membres de la CIRGL ce soir à Mounionyo. Ce rapport devrait aussi orienter les dispositions de la mission de la force internationale neutre qui, rappelons-le, devrait être constituée les deux mois à venir. Signalons que cette réunion, dans laquelle participent les délégués de la MONUSCO à la tête du représentant spécial Roger Miss, est la deuxième de la série de trois rencontres organisée dans le cadre du quatrième sommet extraordinaire des chefs d'État. Elle vient après celle des experts qui s'est tenue vendredi et elle précède celle des chefs d'État et gouvernement des 11 pays membres de la CIRGL qui commence probablement cet après-midi à Mounionyo. De Mounionyo à Kampala, Bernard Nyangi pour Radio Okapi.
Au Nord Kivu, un homme a été tué hier soir à Nyamilima, en territoire de Rutshuru. Il s'agit de Bukoko Kasunzu, 43 ans, commerçant de son état. Selon le vice-président de la société civile du Nord Kivu, Omar Kavota, les éléments des Maïmaï Chetani se sont introduits au domicile où ils ont exigé de l'argent à la victime avant de lui loger une balle dans la poitrine. La société civile du Nord Kivu déclare que ces miliciens Maïmaï auraient quitté le village de Nyamilima pour Ishasha après avoir piller des boutiques et d'autres habitations. Au Nord Kivu, toujours, l'autorité coutumière du groupement de Kibati, situé à 10 km au nord de Goma, en territoire de Nyiragongo, dénonce des cas d'insécurité dans son groupement. Selon Janvier Batuma Mushunju, ce sont certains jeunes de Nyamilima, de Nyiragongo, qui sont à la base de cette insécurité. Il ajoute qu'une dizaine d'entre ces jeunes a été arrêté par les services de sécurité. Un coup de filet apprécié du reste par les autorités coutumières de ce territoire. Annonce faite à la presse aujourd'hui à Kibati par les chefs de village de Nyiragongo. Janvier Batuma Mushunju demande aux jeunes de Nyiragongo de se désolidariser avec les forces négatives dans leur territoire. Il sollicite pour cela le concours des autorités locales pour mieux sécuriser la contrée. On l'écoute au micro de Moïse Mutunga Lukube.
Je déplore l'insécurité dans notre chefferie de Bukumu, en territoire de Nyiragongo, parce que chaque jour, on a enregistré des cas d'assassinats, des cas de pillages dans des maisons par des bandits, les jeunes de notre chefferie, qui se sont alliés à des FDLR. Maintenant, aujourd'hui, ils sont arrêtés et nous demandons aux autorités de poursuivre ces dossiers et que ces marifras soient condamnés, transférés en dehors de notre province du Nord Kivu. L'armée a parvenu à les attraper, c'est grâce à la collaboration de l'autorité coutumière. Dire qu'ils sont en connivence avec les Mouami, c'est pire mensonge.
On passe maintenant au Kasaï oriental où 40 maisons ont été incendiées et plusieurs autres bien détruites. C'est le bilan d'un affrontement entre deux groupes de personnes suite à un conflit coutumier. Les faits ont eu lieu vendredi dernier dans le groupement de Mbo-Lukinda à environ 110 km de Cabinda. Actuellement, la population s'est réfugiée dans la brousse. La police a même dépêché hier des éléments sur les lieux. C'est un appel de Nikemputu en direct de Mbujimayi.
Ce conflit de pouvoir coutumier a débuté dimanche dernier. Le chef de groupement de Mbo-Lukinda, du nom de Tambo Kabulo, en partance pour Cabinda, s'est fait attaquer par des hommes armés de machettes et fusils. Ces personnes se réclament proches de son opposant Champa Fwamba. Alors qu'il suivait les soins à la cité de Cabinda, vendredi, le chef de groupement affirme avoir reçu la nouvelle selon laquelle son groupement était attaqué. Selon lui, le bilan fait état de 40 maisons, 2 camions, 6 motos et 4 moulins incendiés. Une somme de 15 000 dollars et plus de 17 millions de francs congolais volatilisés. Pour l'instant, la population s'est réfugiée en brousse. Toujours au dire de la victime, c'est depuis le mois de mars, lors de son installation officielle, qu'un dénommé Champa s'est autoproclamé également chef de groupement. Le chef de groupement fustige tout de même la non-implication des autorités judiciaires qui ont laissé pourrir l'affaire sans aucune condamnation. Le commissaire de district de Cabinda, joint au téléphone ce matin, reconnaît le pouvoir de Ntambo Kabulo. Toutefois, il ne sait donner avec précision le bilan réel de l'attaque. Il dit attendre le rapport de l'administrateur du territoire dépêché avec un peloton de la police sur le lieu d'affront. Mbujimayi, Nikemputu, Radio Okapi.
Plus près de là, au Kasaï occidental précisément, les familles de Chikapa sont approvisionnées de nouveau en eau potable depuis ce dimanche matin après une journée de pénurie. Chikapa est une ville située à 265 km à l'ouest de Kananga. Les vendeurs d'eau potable, communément appelés Banama, n'ont fait aucune livraison hier samedi. Ils se sont révoltés après l'accident des circulations dont a été victime un des leurs. Ce dernier a été percuté par une moto roulant à vive allure. Retour sur les faits avec Joseph Mwamba de la radio Kilimanjaro.
Samedi matin, les vendeurs d'eau potable se sont fait rares sur différentes rues du centre-ville. Les ménagères ont été obligées d'aller chercher de l'eau loin de leur maison. À la base de cette situation, un vendeur d'eau est percuté par une moto roulant à vive allure. Ayant appris la nouvelle, ce jeune vendeur ambulant d'eau s'attaque au bureau de la police d'investigation criminelle le plus proche avec des projectiles. Au même moment, le centre de santé où leur collègue est interné pour les soins est aussi vandalisé par un autre groupe. Alerté, les commandants districts de la police Chikapa envoient des renforts pour établir l'ordre. 18 vendeurs d'eau ont été interpellés. Ils sont actuellement au cachot de la police et attendent l'instruction de leur dossier. Entre-temps, la fourniture d'eau est restée paralysée toute la journée. Ce dimanche matin, la situation est redevenue normale. Chikapa, Joseph Mwamba, Kilimanjaro Radio Télécontact pour Radio Okapi.
L'actualité de l'Équateur avec cette crise qui perdure en ce moment à l'université de Mbandaka. Depuis le début de la semaine dernière, les étudiants de la faculté de médecine réclament le départ de l'actuel comité de gestion de cette institution universitaire. Ils les accusent de malversation financière. Mais hier, samedi, les étudiants de la faculté de droit se sont désolidarisés de leurs collègues de la médecine. Le futur juriste exige la réouverture de l'université et la reprise de ses activités quotidiennes. C'est ce que nous raconte Jean-Michel Liboulamopolo.
Ils sont désormais divisés, ne parlent pas le même langage et ne regardent plus dans la même direction. Selon un proche de milliers d'étudiants, les étudiants de la faculté de droit ne soutiennent plus les allégations de leurs collègues de la médecine. Hier samedi, par exemple, les futurs magistrats et avocats ont condamné l'initiative de leurs collègues des biomèdes qui conditionnent la reprise des activités à l'université par le départ en bloc de tous les membres du comité de gestion actuel. Dans un mémo remis hier à l'autorité provinciale, le deuxième camp affirme que la tâche de nommer ou de démettre des autorités académiques de leurs fonctions n'est pas reconnue aux étudiants. Pour leur part, les manifestants ne veulent pas entendre cela de cette oreille. L'université sera fermée, déclare-t-il, tant que les autorités académiques actuelles resteront en poste. S'agissant de la démarche de leurs collègues des droits, les futurs médecins parlent plutôt de la manipulation du comité de gestion mis en cause. Entre-temps, les autorités de l'université, elles, restent toujours muettes. Mbandaka, Jean-Michel Liboulamopolo, Radio Okapi.
Sport pour terminer ce journal. La ville de Lubumbashi au Katanga accueille dans quelques heures le match de foot entre le Tupisa Mazembe et l'Espérance des Tunis dans le cadre des demi-finales de la Ligue africaine des champions. Si dans les deux camps on crie déjà à la victoire, pour les sportifs avisés, cette rencontre de cet après-midi est une finale avant la lettre et les deux formations ont des comptes à rendre au regard de leur passé tumultueux. N'est-ce pas, Jean Gandou?
Le public sportif se dirige déjà vers le stade de la commune Kamalondo et n'attend que l'heure du match. Un match qui dégage l'odeur de la revanche pour les deux frères ennemis. Dans les deux camps, les deux coachs se sont montrés plus prudents dans leurs déclarations, tout en estimant chacun que la victoire lui reviendrait. Pour Lamine Ndiaye, tous ses joueurs sont fin prêts pour aborder la partie avec la hargne de vaincre. Victoire oui, mais avec l'appui du 12e homme, qu'est le public, qui doit pousser son équipe à faire l'essentiel à Lubumbashi avant d'aller confirmer la qualification pour la finale lors de la manche retour. Du côté de l'Espérance des Tunis, le coach Nabil Maloul affiche aussi la même détermination. Il reconnaît que l'équipe adverse a des bons joueurs capables de faire la différence, mais les siens sont déjà avisés notamment pour désagréger la cohésion entre les milieux de terrain et la ligne offensive de Mazembe qui constitue sa force. Tout-puissant Mazembe, Espérance de Tunis, un match qui rappelle la finale aller jouée en octobre 2010 où les Congolais avaient imposé un cinglant 5-0 à Lubumbashi et un match nul à Tunis, remportant ainsi pour la deuxième fois consécutive la Coupe de la Champions League africaine. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
C'est la fin de cette édition qui a été réalisée par Suzanne Dobondra sous la coordination de Martin Sebou-Jangwe. Merci d'avoir écouté.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.